Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 12 mai, bonne journée, bienvenue au 98.5. C'est pas compliqué la météo, trois journées de canicule, trois journées chaudes, c'est du soleil aujourd'hui 30, même scénario demain, et samedi c'est même du soleil et 31 degrés. La pluie sera de retour à compter de dimanche. Et surtout lundi, on prévoit une chute des températures. Là, on devrait se retrouver à environ 19 degrés. Parlons maintenant de la guerre en Ukraine, mais d'abord vous dire que la Finlande se rapproche de plus en plus de l'OTAN. Le président finlandais, la première ministre, ont indiqué qu'ils avaient l'intention de présenter leur candidature. Et il faut dire que depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes, on voit que les pays non alignés tentent maintenant de se rapprocher énormément des alliés membres de l'OTAN. Maintenant, allons voir ce qui se passe sur le terrain avec Tetiana Ogarkova, qui est journaliste en Ukraine. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
D'abord, que se passe-t-il à Mariupol? On veut avoir absolument des nouvelles. Il y a encore, semble-t-il, des échanges de tirs, mais aussi une proposition là pour tenter d'échanger des blessés entre les deux camps.
Oui, tout à fait. Azovstal et Mariupol s'est transformé en théâtre de l'absurde, en fait, puisque ça fait déjà des semaines que c'est un reality show, en fait, pour le monde entier. On observe tous les horreurs qui se passent là, mais on se sent impuissant. Hier, le côté ukrainien, la ministre ukrainienne a posé sur la table la proposition pour les Russes que d'échanger les blessés uniquement aux militaires qui se trouvent à Azovstal contre tous les prisonniers russes qui se trouvent sur le territoire ukrainien. Ils sont nombreux, il s'agit de bien de milliers de personnes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Mais d'après ce qu'on sait, les négociations sont en cours, c'est-à-dire il n'y a pas de point mort. Il y a toujours cet espoir que de libérer les gens qui sont à Azovstal. En même temps, on reçoit les informations, les histoires très tragiques concernant les évacuations de civils. Notamment hier, c'était confirmé que la fille qui s'appelle Alissa, qui a 4 ans, qu'il est arrivé à Zaporijjia le 8 mai. Elle était bien séparée avec sa mère. Sa mère était médecin militaire à Azovstal. Par contre, elle n'a pas pu arriver à Zaporijjia. Elle était arrêtée dans le camp de filtration à Mangouche, à 20 km de Mariupol. Donc, le destin de cette femme, malheureusement, est inconnu. Elle devrait être transférée dans les camps de détention russes, que ça soit dans les territoires occupés ou en Russie, on n'en sait rien. Mais justement, pour souligner le drame, en fait, des gens qui se trouvaient à Azovstal, voilà la fille de 4 ans qui a perdu sa mère lors de ce processus de filtration, sans aucune pitié. Ils ont séparé un enfant et la mère il y a quelques jours.
Maintenant, parlons de la situation à Kharkiv, qui est la deuxième ville en importance, et aussi dans le Donbass.
Oui, Kharkiv, toute la région de Kharkiv, il y a plutôt, on continue à recevoir des nouvelles positives, puisque hier, l'armée ukrainienne a encore libéré un village stratégique. On voit que l'armée ukrainienne avance sur tout le front, c'est-à-dire qu'on peut envisager, toujours prudemment, parce que c'est une guerre, mais prudemment, on envisage la libération de toute la région de Kharkiv dans les jours ou semaines qui viennent. On voit que les troupes, une partie en tout cas des troupes russes est déjà sur le territoire russe et qui sont en mouvement vers la direction de Donbass, justement pour renforcer l'offensive russe qui est très, très violente, très puissante et très énergique encore, malgré tout, dans la région d'Izium et dans la région de Lugansk, c'est-à-dire ils essayent toujours d'encercler les troupes ukrainiennes à Donbass. Les combats, ils sont très très violents, très acharnés, avec plusieurs pertes du côté russe, mais bien sûr aussi de pertes du côté ukrainien. On met tout ce qui est possible, l'armée ukrainienne met tout ce qui est possible pour empêcher cette attaque. En fait, c'est la dernière attaque importante de l'armée russe. Et donc, si on arrive à tenir si on arrive à résister, on pourra parler de l'échec en fait de la Russie dans cette deuxième stade de la guerre. Mais on a l'eau en delà en fait pour l'instant. On espère, on renforce tant qu'on peut l'armée ukrainienne. Je veux dire les volontaires ukrainiens, mais aussi bien sûr on commence à recevoir des armes de la provenance occidentale. On espère que cette bataille sur le Donbass sera une fois de plus emportée par l'Ukraine.
Merci Tetiana, on se reparle à nouveau demain. Tetiana Ogarkova qui est journaliste. Maintenant dans les autres nouvelles, prix de l'essence, ça demeure très élevé. Et quand vous faites un survol ce matin, il y a une conclusion qui s'impose, c'est-à-dire que l'inflation ne ralentit pas. Les chiffres aux États-Unis montrent qu'au contraire, on a vu que ce soit dans le domaine de l'énergie, du pétrole bien sûr, mais aussi de l'alimentation, une augmentation soutenue pour le mois d'avril au-dessus de 8%. Et il y a tout un questionnement sur la gestion par exemple, la réserve américaine sur les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Est-ce qu'on aurait dû intervenir plus vite? Au Canada, c'est la même chose concernant la Banque du Canada. Même M. Poilievre, qui est candidat à la direction des conservateurs, a dit hier dans le débat que lui congédierait le gouverneur de la Banque du Canada. Alors concrètement, ça veut dire que pour votre portefeuille, les nouvelles sont pas bien bonnes. Et ce matin, le Journal de Montréal prend l'exemple de la pizza. Vous allez me dire pourquoi? Ben pour montrer que chacun des ingrédients de la pizza en question sont frappés par des augmentations de 8, 10 et même quand on parle de l'huile, de plus de 20%. Le prix de l'essence ne va pas ralentir, puis tout ça a un impact, là. On en parlait hier avec des camionneurs qui se retrouvent à rouler à perte, ou encore, quand c'est possible, en raison de mécanismes, de récupérer un peu d'argent, même si l'augmentation de l'essence et ou surtout du diesel est spectaculaire, ben, il y a beaucoup de camionneurs qui roulent à perte ou en tout cas font pas énormément d'argent parce que ça s'ajoute à d'autres types de dépenses. Donc, t'augmentes normalement le coût payé par le client qui lui va refiler le tout au consommateur. Donc, en résumé, autant pour le pétrole, autant pour ce que vous mangez, c'est pas demain, la veille, qu'on va assister peut-être à une chute des prix. Au contraire, là, on est vraiment dans une spirale inflationniste, autant ici comme aux États-Unis. Bénédicte tantôt parlait, bien sûr, de ce règlement de compte, ce meurtre qu'on associe au motard, probablement, ou en tout cas, vraiment au crime organisé dans le quartier Saint-Michel. Mais ce qui vous a frappé, bien sûr, on en parlait hier matin, c'était dans la presse plus et ça a été repris à la télévision également, ces images dans le quartier résidentiel à Laval, où un homme est touché par balle. C'est une voiture qui roule quand même assez vite dans le coin. Mais ce qui vous a frappé, puis avec raison, c'est la présence de deux petites filles qui étaient cachées près d'une voiture. Et je trouve ça important qu'on ait vu ces images-là, parce que je suis convaincu que cette guerre de gang à Laval, et même avec des, je dirais, effets domino ici à Montréal, ça aussi, c'est pas prêt de ralentir. Puis il n'y a pas de rationnel, puis il n'y a pas de logique. Puis les policiers font une bonne job, ils saisissent des armes. C'est excellent. La visibilité, ça aussi, c'est important. Mais je sais, puis je lis les courriels, puis pas juste des gens de Laval, là. Il y a une nervosité de dire, écoute, là, c'est en plein jour. Hier aussi, c'est en plein jour. C'est comme... puis là, à Laval, c'est vraiment un quartier tranquille. C'est un quartier où le grand-père est là avec sa petite fille, puis elle est dehors, puis bon, ça se met à tirer. Je veux dire, il y a quelque chose de pas juste choquant, il y a quelque chose qui peut rendre, disons, les gens un peu inquiets. Tu sais, je comprends le discours là, que Montréal demeure une ville sécuritaire, c'est pas ça, là. Mais disons qu'on assiste à une dérape assez forte avec des gens qui trouvent des armes, comme on ramasse des fleurs, puis qui ont, je dirais, aucun scrupule, aucun principe, puis je sais que ça fait toujours bizarre de parler de code d'éthique, là, mais quand même, de tirer sur des gens en plein jour dans un quartier résidentiel, c'est délirant. L'autre chose dont je vais vous parler rapidement, l'histoire de ces jeunes filles qui ont été leurrées. On a entendu le témoignage de la mère, puis on vous fera entendre d'autres extraits tantôt. C'est un phénomène qui, ça aussi, est en croissance, un. Et deux, il y a des parents qui se demandent quoi faire. Et le conseil que moi j'entends des intervenants, que ce soit de la DPJ ou encore des policiers, policières, tu laisses pas une ado aller se coucher avec son téléphone puis avec une tablette. Puis un ado non plus, là. Ce que je veux dire, c'est que il s'agit pas de tout contrôler, il s'agit pas d'être parano, mais d'avoir au moins un certain nombre de mesures d'encadrement. Puis ça veut dire, tu t'en vas pas t'enfermer dans ta chambre avec ta tablette le soir. Tu consommes l'Internet puis les réseaux sociaux puis les applications dans une pièce commune. Et je sais que c'est peut-être pour des parents difficiles, puis Bénédicte me disait que la mère, vous avez entendu, elle avait fait toutes les mises en garde à sa fille, puis elle avait tardé à lui autoriser un téléphone. Donc, s'il y a un conseil de prudence qu'on peut donner, je pense que c'est évidemment celui-là. Le Journal de Montréal nous raconte l'histoire, une belle histoire du gouvernement, qui a donné un contrat. En fait, c'est la Société québécoise des infrastructures. Un contrat qui est pas énorme, là, c'est pas ça qui est en cause. À la location Tribox, pour enfouir des copeaux de bois et de terre enlevés, c'était un site de construction d'une école secondaire. Le problème, c'est que la firme en question appartient à Roberto Scopa. Ses deux frères ont été assassinés, deux figures dominantes du crime organisé. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on découvre également, c'est que la compagnie a reçu une amende de 10 000 $ pour avoir disposé de sols contaminés sur son terrain en zone agricole à Mirabel. Et également, il y a trois avis de non-conformité qui ont été déposés justement pour avoir mis des sols contaminés en milieu humide puis des installations qui ont été faites là sans autorisation. Autrement dit, la société donne le contrat à une entreprise qui se fait botter le derrière par le ministère de l'Environnement. Et ils sont même pas allés vérifier, ils le reconnaissent. Là, tu te dis, ça donne quoi d'avoir un registre, d'avoir des décisions? C'est un minimum de vérifier avec qui on fait affaire, surtout quand c'est le gouvernement. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors là, tout le monde se mord la main un peu, puis dit, ben là, on ne le fera plus. Puis le monsieur Scopa en question, il reconnaît qu'il n'est pas parfait, mais qu'il va corriger la situation. Et puis hier, Guylaine Leclerc, la vérificatrice, a présenté son rapport pour nous dire quoi? La mauvaise gestion des équipements de protection pendant la pandémie, ça a coûté 1 milliard. J'ai entendu M. Legault, j'ai entendu Christian Dubé dire, on a corrigé le tir, bien sûr, mais on a sauvé des vies, et c'est facile de faire un peu le quart arrière du lundi, puis faire aussi le gérant d'estrade. Il y a quand même des points qui sont importants, et c'est le fait que malgré, et ça je pense que c'est le plus important, c'est pas une question de savoir qui est au gouvernement, là. C'est l'État, c'est la machine. Un, la santé publique, ça n'a jamais été trop considéré dans les priorités gouvernementales. Deux, en 2006, on a fait une réserve d'urgence d'équipement pour se protéger contre une pandémie de grippe, là, d'influenza. Et on a utilisé une partie du stock, et puis finalement, on n'a pas remplacé ce qu'on a utilisé. On est resté à découvert. Ça sera pas le cas. Et ce qui a fait en sorte qu'on a payé cher, qu'on a fait affaire avec des fournisseurs parfois douteux et qu'on a perdu de l'argent, et surtout, c'est qu'on a tardé, contrairement à d'autres juridictions, à commander l'équipement. Le Québec est parti lentement. C'est ce qu'elle nous dit par rapport à d'autres endroits. Ça, c'est important. Et surtout, ça vient défaire le discours de la ministre Mécan à l'époque, puis du premier ministre Legault, qu'il n'y en avait pas de problème d'équipement. Or, ce qu'on entendait sur le terrain, c'était pas ça, là. C'était contrôlé au compte-gouttes. Et ça a pris du temps avant de pouvoir, justement, obtenir les quantités suffisantes. La vérificatrice sera avec nous un petit peu plus tard ce matin. Et aussi, je vous parle souvent du fameux hub. L'orchestrateur qui va faire en sorte que, par exemple, vous allez pouvoir obtenir un rendez-vous chez le médecin. Et là, je sais que le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, le docteur Amiot, se promène à travers le Québec. Et là, il se rend compte que le fameux hub n'a pas l'air à très bien fonctionner. Et que des médecins sont assez réticents à l'utiliser. Alors, pourquoi? Ben, il y a des doublons. Il y a également des rendez-vous qui, normalement, affichent occupés, mais ils ne sont pas. Bref, il y a des ratés informatiques. Autant la plateforme pour le vaccin marchait bien. Autant on se rend compte que l'orchestrateur qui doit être établi là dans la première phase, le 1er juin, avec le guichet là, d'accès. Puis le guichet, je rappelle, là, c'est une infirmière qui va trier les appels puis qui va déterminer qui est le bon professionnel pour vous. Là. Est-ce que c'est le médecin? Est-ce qu'une infirmière spécialisée fait l'affaire? Mais c'est clair qu'ils ont toutes sortes de problèmes, les docteurs, avec l'outil informatique. Puis moi, ça fait longtemps que je le dis, ça fait longtemps que je leur pose des questions. Puis ils finissent par l'admettre du bout des lèvres. Mais hier, donc, ça a été assez clair que c'est un problème important qui persiste. M. Trudeau n'a pas l'intention de fermer le chemin Roxham comme le demande le gouvernement du Québec. Il dit qu'il y a des discussions avec les Américains, qu'on n'est pas là. Rappelons que le ministre Jean Bouglé dit qu'on a atteint la capacité maximale d'accueil et que on n'a plus le choix, là. Parce que quand on parle de réfugiés et d'accueil, ça veut dire hébergement, ça veut dire soins de première ligne, ça veut dire accompagnement, démarche, trouver un emploi. Et il y a cette forme d'inéquité qui existe entre des réfugiés qui sont admis à travers un programme puis des gens qui entrent ici avec leur petite valise par un chemin qui est ouvert. Et M. Trudeau dit, ben, on a une politique face aux réfugiés puis on va la maintenir, mais on va atteindre un nombre record cette année d'environ 35 000 personnes. Ensuite, rapidement, on va vous parler tantôt, notamment avec Elisabeth, de ce deuxième rorqual qui a été vu. Ça fait beaucoup quand même de phénomènes de changement. Quand vous voyez des rorquals qui sont à 450 km de leur milieu naturel, un ours polaire en Gaspésie, il y a des phoques, semble-t-il, dans le bout de Trois-Rivières aussi. Alors, on va regarder ça en détail ce matin. Et peut-être vous dire, trouvez ça intéressant, le professeur Charles Bois de l'Université Dalhousie nous explique que les Québécois, les Canadiens en général, commencent à décrocher des plats préparés, là, les good food et autres. Là. Il y a plusieurs entreprises qui le font. C'est sûr que pendant la pandémie, il y a eu une croissance. Beaucoup de gens qui ont essayé ça. Ça coûte quand même assez cher. Et vous connaissez le principe. Ça vous arrive prêt. Quelques manipulations à faire, puis vous avez votre repas. Alors, bien sûr, des gens qui sont très, très occupés, c'est intéressant. Mais on se rend compte que finalement, avec la pandémie, on en a fait de la bouffe, puis du tout prêt, puis du commandé, puis bon. Et là, les gens semblent décrocher un peu de ça, de cette expérience. Et je pense que c'est quand même le deux tiers des Canadiens qui ont jamais fait ça au moins une fois dans leur vie, là, qui trouvent que c'est comme, ça n'a pas d'allure. Et là, vous me direz que c'est aussi des petites portions dans des petits contenants, puis c'est... Quand même, quand on parle de recyclage, là, ça aussi, ça demeure un enjeu.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Dépôt hier du rapport de la vérificatrice générale du Québec, notamment sur le dossier des équipements de protection individuelle dans la première partie de la pandémie. Guylaine Leclerc est avec nous. Madame Leclerc, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Si on prend ça par étapes, dans le fond, les constats que vous faites, là, puis je veux juste qu'on se comprenne bien, là. Le premier, c'est que on a acheté des équipements pendant la période de l'influenza, puis H1N1, on en a utilisé, mais on n'a pas renouvelé le stock. C'est-à-dire que ce qu'on a utilisé n'a pas été remplacé.
Mais ça, c'est important parce que c'était dans un plan d'urgence sanitaire. Le plan d'urgence sanitaire, mais ça permet de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire s'il arrive tel événement, là, par exemple, une pandémie? Ce qu'on a constaté, c'est que le plan d'urgence sanitaire n'était pas à jour. Il datait de plus de 10 ans Et il avait été, puis d'ailleurs, il n'a pas tenu compte de la grande réforme qui a eu lieu en 2015 là, avec la création des CIS et des CIUS. Donc ça, c'est la première chose. Et dans le plan d'urgence sanitaire, on prévoit qu'il va y avoir une réserve des équipements de protection individuelle. Est arrivé en 2009 la H1N1. On avait jusqu'à ce moment-là une réserve de pays. Lorsqu'est arrivé le H1N1, on a utilisé une partie de la réserve. Et après ça, en octobre 2010, on a décidé d'écouler le solde qui restait de la réserve. Et ça, on n'a pas l'information pourquoi cette décision-là a été prise.
Mais ce qui nous amène à dire, Mme Leclerc, que quand la COVID est arrivée, la pandémie, on n'était pas équipé là, pour faire face à ça.
Ben c'est ça. C'est que à partir du moment où on a écoulé la réserve, on aurait dû pallier par autre chose. Donc, par exemple, avoir des ententes avec des fournisseurs ou, en tout cas, faire en sorte que, bon, d'accord, on n'a pas de réserve, mais on a une entente avec des fournisseurs, ce qu'on n'avait pas. Ce qui fait que lorsqu'est arrivée la pandémie, mais déjà qu'on n'avait pas de réserve, on n'avait pas d'entente avec des fournisseurs, bien, on a aussi tardé avant de faire des achats massifs.
Mais quand vous me dites tardé, là, on est en retard par rapport à qui dans nos commandes?
Bien, par rapport, premièrement, l'Alberta. Elle a déjà commandé en décembre 2019, par exemple. L'OMS, dès janvier, avise qu'il va y avoir une flambée d'infections et puis mentionne qu'il va y avoir des... En début février, mentionne que les stocks de pays sont... les demandes sont 100 fois plus élevées puis que les prix sont 20 fois supérieurs. On est en février. En début février, des établissements du M3S déjà mentionnent qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement de pays. Et ce n'est que le 22 mars que le ministère commence des achats massifs de pays. Donc, on voit qu'il y a quand même un certain retard entre le moment où ça a été identifié qu'il y aurait possiblement des problèmes d'équipement de protection individuelle et déjà qu'on n'avait pas de réserve et qu'on n'avait pas d'entente avec des fournisseurs.
Et ça veut dire, tu pars en retard, t'as pas d'entente, donc tu payes plus cher, puis dans certains cas, tu te trouves à faire affaire avec des gens plus ou moins honnêtes, là.
Mais c'est ça, c'est que là, actuellement, il y a certains litiges, mais outre les litiges, on a dû dévaluer la valeur des stocks qu'on avait pour 938 millions de dollars, ce qui est près d'un milliard de dollars. Donc, on a payé nos stocks d'équipements de protection individuelle à un certain prix et à la fin, en fonction de ce qui nous restait, puisqu'on s'était engagé à payer, ben il fallait les dévaluer pour près d'un milliard.
OK, mais pour que ça soit clair, là, Mme Leclerc, pendant cette première vague, disons, de la pandémie, là, on a manqué d'équipements.
Au début, il y a eu au début, le problème, c'est que chacun des établissements avait son propre mode de fonctionnement. Alors, il fallait, dans certains cas, compiler manuellement, faire un décompte, savoir où il y en avait des stocks et où il en manquait. Et tout ça, c'était pas informatisé de façon unilatérale, c'était chacun des établissements devait compiler. Des fois, ils compilaient, mais on ne tenait pas compte de ce qu'il y avait sur les étages. Des fois, il y avait... Alors, c'est devenu très difficile de connaître vraiment l'état d'inventaire des équipements.
Alors, quand on nous disait officiellement « tout est sous contrôle, on manque de rien », c'est pas vrai. Je veux dire, dans le meilleur scénario, c'est que l'information ne se rendait pas.
Ben c'est ça. C'est ça, c'est que l'information était déficiente, des stocks n'étaient pas décomptés, il y avait la distribution aussi. On avait remis aux établissements, quand on parle d'établissement, là, on parle de CIS et de CIUS. Hein? Lorsqu'on remettait, on distribuait aux établissements, ben, eux avaient une grande latitude pour savoir à qui ils les remettaient au début. Alors, c'est là qu'est arrivé un peu, là, je vous dirais, une des problématiques de distribution des EPI.
OK. Et j'ai entendu hier l'univers politique dire, dans le fond, OK, on a pris acte et on a corrigé la situation. Mais c'est facile de jouer à la gérante d'estrade, puis d'arriver après, puis de dire, bon, ben elle regarde ça, mais dans le temps, on n'avait pas le choix, on avait une crise, puis il fallait bien acheter les équipements, puis oui, on a payé cher, mais 1 milliard pour sauver des vies, finalement, c'est peut-être ça qu'il fallait faire.
Écoutez, M. Arcan, dans tous nos mandats, mais particulièrement celui-là, un des rôles qu'on voulait pas jouer, c'était justement gérant d'estrade. On est conscient de la crise. On a, tout au long de la réalisation du mandat, on a fait attention de ne pas critiquer des choses parce qu'on était en crise, là. Par contre, un plan d'urgence sanitaire à jour, c'est quelque chose qui est essentiel pour protéger une population, ce qui n'était pas le cas, et de pouvoir de s'assurer, comme le prévoit le plan, qu'on a des réserves suffisantes ou qu'on a à tout le moins des ententes ou d'autres processus pour s'assurer qu'on est en mesure d'avoir des équipements de protection individuelle, mais c'est de la bonne gestion. Et je dois vous dire que suite à cette situation-là, mais le gouvernement à l'été 2020, a donné un contrat de 10 ans pour devenir autonome au niveau des EPI, mais particulièrement pour les masques.
Dans le fond aussi, ce qu'on constate, c'est que, comment dirais-je, tout le volet de la santé publique, quand politiquement tu as à prendre des décisions budgétaires, puis là tu n'as pas de crise, tu dis pas pour acheter ça, on n'a pas besoin, ça n'a jamais servi, c'est comme si ça devient un parent pauvre. Puis dans les entreprises, t'as ça. Souvent ici, les gens de la technique vont lever la main en disant on va finir par avoir des problèmes. Ouais, ben, l'année prochaine, on investira. Dans 2 ans, on investira. On dirait que c'est comme ça que ça s'est passé. Avant.
Ben, je voudrais pas être démagogue. Mais il y a quelqu'un qui me faisait part que c'était un peu comme si une municipalité disait « j'ai jamais eu de feu, j'aurais pas de pompiers
ouais. ».
Alors
c'est une bonne image.
Pour un plan d'urgence sanitaire, ben peut-être qu'on s'est dit « on n'aura jamais une pandémie de cette ampleur ». Mais le plan d'urgence sanitaire prévoit qu'on se doit de pallier une pandémie. Alors, c'était important de le mettre à jour et c'était ce qui n'était pas le cas.
Je me souviens, pendant le verglas, les municipalités avaient besoin d'un plan d'urgence. Chaque municipalité en avait un en principe. Puis quand est arrivé le verglas, il fallait le trouver. Puis il n'avait pas été mis à jour depuis longtemps. Fait que théoriquement, tu en avais un, mais il n'était pas bien utile.
C'est ça.
OK. Là, le temps file, mais je veux vous entendre aussi sur les personnes âgées en grande perte d'autonomie. Vous dites qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, qu'on sous-estime la facture à venir, notamment pour l'horizon 2028. Si on ne prend pas ça au sérieux bientôt avec les moyens, il y a des gens qui n'auront pas droit à des services pour lesquels, normalement, ils auraient été sur la liste.
Monsieur Arcan, actuellement, les soins, le nombre d'heures de soins qui sont données, autant en CHSLD, mais surtout au niveau des soins à domicile, sont insuffisants par rapport aux besoins. Ça, c'est la première évaluation qu'on a fait. Ensuite, on a fait une évaluation sur combien ça va coûter combien ça va coûter en 2028 pour l'augmentation, la croissance projetée du nombre d'aînés en grande perte d'autonomie. Et l'estimation qu'on a fait de façon très conservatrice, c'est 2 milliards de dollars par année. Ce 2 milliards de dollars-là, faudra savoir comment on va le financer et aussi comment on va définir les changements qui vont être nécessaires. Entre autres, les besoins en main-d'œuvre, les besoins en technologie de l'information. Et ça, c'est pas fait actuellement.
Merci beaucoup pour votre travail, puis merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Merci, bonne journée. Alors, Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale du Québec.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On revient sur le petit rorqual qui a été aperçu à Montréal. Ben, il y en a un deuxième aussi qui a été aperçu. D'abord à Trois-Rivières, on l'a vu à Varennes. Et on parle de phoques également du côté de Trois-Rivières. J'en parle avec Robert Michaud, qui est le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Monsieur Michaud, bonjour.
Monsieur Arcan, bonjour.
Je le sais que j'ai beaucoup de questions, puis vous aussi, vous avez beaucoup de questions sans trop de réponses, mais quand même, on va essayer de trouver un terrain commun. Là, le deuxième Rorqual, c'est pas le petit frère de l'autre, là. Il n'y a pas de lien à première vue entre les deux.
Ben, il n'y a pas de lien à première vue, mais pour expliquer un petit Rorqual, honnêtement, on ne sait jamais pourquoi ces animaux-là s'aventurent dans du vagabondage comme ça. On sait que c'est pas une bonne idée. Nos meilleures explications, c'est de la errance, c'est des animaux qui ont un caractère plus explorateur, ils ont fait des erreurs, ils ont suivi de la nourriture, sont inexpérimentés. Mais là, deux, effectivement, c'est légitime de poser des questions. Est-ce qu'on peut voir ça autrement? L'idée d'un lien avec l'autre animal est pas bête du tout parce que le premier qu'on a vu, il est tout petit. C'est vraiment 3,4 mètres. Ça pourrait être un animal qui est né au début de l'hiver. Si c'est un animal qui est né au début de l'hiver, il est peut-être arrivé avec sa mère. Si c'est le cas, ils ont peut-être commencé ce vagabondage-là ensemble, ils se sont perdus en route. On verra, on n'a pas encore de bonne observation du deuxième animal. Ça semble pas être un gros, ça semble être peut-être un petit. Si c'est un petit, c'est pas sa mère. Si c'est pas sa mère, c'est pas des amis parce que c'est pas des animaux sociaux. Fait que là, je m'en vais avec vous, là, on fait des hypothèses.
On procède par élimination. c'est correct, c'est parfait ça.
On n'a rien que ça. Maintenant, est-ce que si c'est un autre jeune, parce que les images qu'on a reçues suggèrent que il n'est pas très gros, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a eu un baby boom dans la population des petits rorquals? Vous savez, ces animaux-là ajustent leur cycle reproducteur avec les conditions environnementales. Puis s'ils ont eu des bonnes années, parce que l'environnement il est difficile pour certains, il est généreux pour d'autres. Et il y a des gagnants dans les bouleversements climatiques. Alors, est-ce que on observe une espèce de baby boom chez les petits rorquals, puis on va avoir plein de bébés? Donc, s'il y en a plein, il y a plus de chances d'en avoir deux qui ont fait des niaiseries comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de nourriture qui a remonté le fleuve cette année? Le printemps, il y a des montaisons de poissons importantes. Peut-être que la bouffe était tellement attirante. On est encore évidemment dans les hypothèses. Probablement qu'on ne saura jamais, mais on est aussi surpris, vous. On va essayer de documenter au mieux qu'on peut sans être trop invasif. Mais là, pour l'instant, comme on disait en entrée de jeu, plus de questions. Mais c'est des questions intéressantes, par contre.
Ouais. Est-ce que on est en mesure de voir un peu ou déterminer leur état de santé? Je pense au premier, là, il est en forme. Est-ce qu'il a l'air fatigué? Comment il est?
Ben, c'est un peu l'objectif de ce suivi qu'on fait. On a des observateurs, on a des bénévoles, on a un observateur du réseau qui est là, on a fait des vols de drones. Quand il est arrivé, le premier petit rorqual, il était très beau, il était tout rond, il était tout noir, c'est-à-dire il n'était pas couvert d'algues. Pour l'instant, pas de changement apparent important. On s'inquiète parce que ça fait quand même 3 jours, il est encore au même endroit ce matin, là, le long de l'île Sainte-Hélène, qui nage contre le courant. Les courants, ils sont très, très forts. C'est pas un gros animal. En tout cas, c'est pas une bonne idée d'être là. Est-ce qu'il pourrait y avoir un épuisement? Est-ce qu'il mange? Le rorqual à bosse qui est venu il y a 2 ans, on n'avait pas d'évidence qu'il avait mangé. Quand on l'a retrouvé, on a retrouvé sa carcasse. On en a fait un examen avec nos collègues de la Faculté de médecine vétérinaire, un examen détaillé. Aucune évidence qu'il avait mangé. Alors, c'est la même chose pour le petit rorqual, puis qu'il dépense tant d'énergie à nager contre le courant. Mais vous savez, c'est notre 13e et 14e petit rorqual qu'on voit dans le fleuve en amont de Montréal depuis 2005. Les 10 de ces 14-là, on les a vus au début comme des carcasses. C'est-à-dire leur séjour s'est terminé par une fatalité. C'est pas un bon endroit pour ces animaux-là. Si je parlais petit rorqual, je leur dirais de retourner chez eux. Malheureusement, on n'a pas développé ce langage-là encore. Fait qu'on va juste croiser nos doigts. Malheureusement, il n'y a pas d'intervention prévue. Mais vraiment, on espère que c'est le dernier qui remonte ce printemps-là.
OK, mais quand vous dites qu'il n'y a pas d'intervention prévue, je vous ai déjà posé la question, mais les auditeurs sont persistants, oui. Là. Ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas récupérer? Pourquoi on ne l'amène pas le plus loin possible pour qu'il retrouve son chemin
vers... Parce que c'est un phénomène naturel, parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans cet incident-là, il n'y a pas de cause humaine directement. Alors, c'est pas possible d'intervenir dans ces processus naturels-là. C'est pas souhaitable non plus. C'est pas une espèce en péril, puis il ne menace pas la sécurité des humains. Alors, pour l'instant, on laisse aller la nature, on leur souhaite la meilleure des chances. On va essayer d'apprendre. On est curieux, on veut apprendre, on veut comprendre, puis on va suivre la situation de près.
Qu'est-ce qui arrive avec les deux phoques qui sont à Trois-Rivières?
Pour l'instant, rien, on les observe. Ça, c'est plus fréquent. Ça, on en a régulièrement, mais on fait des périmètres de sécurité. Des fois, on les déplace, mais c'est très, très rare. C'est quand il y a un problème de sécurité avec les humains.
C'est pas une bonne idée d'essayer de les approcher, là. Faut rappeler ça.
Non. C'est des animaux sauvages, hein, puis ils ont des bonnes dents. Faut rester loin.
Parfait. Monsieur Michaud, okay. Merci à vous.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Robert Michaud est le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Deuxième rorcal, deux phoques à Trois-Rivières, l'ours polaire en Gaspésie. Ça fait beaucoup de phénomènes de déplacement comme ça de mammifères, d'animaux là, qui sont dans leur habitat naturel puis qui décident de fuguer, ou pas trop, en tout cas d'aller se promener.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Très bien. On va parler maintenant d'inflation, de prix pour les fruits et légumes. Pourquoi? Parce que hier, il y a des chiffres qui ont été, entre autres, présentés aux États-Unis. Et ça ne se ralentit pas. Enfin, ça ralentit pas. La croissance des prix est là. Une augmentation, quand vous regardez l'ensemble du panier, là, autour de 8% pour le mois d'avril. Il n'y a pas de tendance à la baisse d'observable. Puis quand on résume, hier, on parlait beaucoup du dossier des camionneurs. L'augmentation spectaculaire du diesel, pas toujours des ajustements possibles. Donc, on s'attend à ce que le client paye plus. Puis en bout de ligne, ben, on va collectivement payer plus pour notre panier d'épicerie. Je vais en parler ce matin avec Patrice Bourgoin, qui est le directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Monsieur Bourgoin, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
J'aimerais que vous expliquiez à mes auditeurs ce matin là l'état du marché. C'est-à-dire, un, en termes d'approvisionnement, je comprends que la belle saison va s'installer et on va avoir les produits locaux, mais les approvisionnements et le prix payé pour les fruits et légumes.
Ben, écoutez, actuellement, le prix payé pour les fruits et légumes locaux, très difficile de vous le dire parce que la saison commence. Ouais. Par contre, je puis vous dire que les coûts de production, eux, sont hors de contrôle actuellement.
Donnez-moi un exemple de ça.
Ben, remplir un tracteur de diesel à cette période-ci, l'an passé, c'était 340 $. Aujourd'hui, c'est 680 $. Les boîtes de carton ont doublé de prix depuis le début de la pandémie. Et quand vous venez à bout d'avoir les matières premières pour pouvoir entamer la production, ben, il faut les avoir commandées parfois un an d'avance.
Ma productrice me disait il y a deux minutes que, c'est la semaine dernière, vous cherchiez des élastiques pour les asperges.
Oui, la saison des asperges commence ces jours-ci et la semaine dernière, on cherchait des élastiques pour être capable de manipuler les asperges. On les a commandés à la fin octobre, début novembre et on nous a dit qu'on les recevrait seulement en début juillet et a fallu littéralement gratter les fonds de tiroir pour trouver assez d'élastiques pour combler les besoins pour la saison qui s'amorce là, dans les prochaines heures.
OK. Pouvez-vous me faire un comparatif de quelques produits par rapport donc à l'an dernier, ce que je paye actuellement puis ce que je payais il y a un an?
Ben, je vais faire un comparatif avec l'année, si vous me le permettez, civile de décembre 2020 à décembre 2021. Quand vous regardez les statistiques d'IPC, de Statistique Canada pour les aliments du Québec, le prix des légumes frais au Québec pour un an a augmenté de 1,3%. C'est l'une des augmentations les plus faibles du panier d'épicerie que les Québécois peuvent payer. Alors, tant mieux pour le consommateur, mais pour le producteur, c'est catastrophique parce que le coût de production n'a pas augmenté de 1,3%, il a augmenté de 25 et 30%. Alors, la situation, c'est qu'il y a beaucoup de maraîchers actuellement, depuis deux ans, qui vendent leurs produits à perte lorsqu'on compare au coût de production, c'est-à-dire qu'est-ce que la valeur en dollars que ça nécessite pour livrer des produits frais aux Québécois.
OK, mais dans la vie, on peut pas travailler à perte tout le temps. Là. Il y a du rattrapage qui va se faire un jour.
Oui, effectivement, et c'est pour ça que la saison qui s'amorce va être une saison déterminante pour plusieurs maraîchers. Vous savez, le portrait des maraîchers au Québec, ce sont de petites entreprises familiales et on n'est pas comme les géants de la Californie, de la Floride, voire même du Mexique. Alors, on oublie souvent que, bon, le métier de maraîcher, c'est un métier noble, on nourrit les gens, mais derrière ce métier noble, le fait que on a un dur labeur pour produire, ben ce sont des entreprises, puis des petites PME, et de plus en plus, ben on va jouer dans les liquidités de ces entreprises-là, parce qu'il faut commander des matières premières en décembre, en janvier, en février, au moment où les revenus sont pas au rendez-vous parce que la saison est terminée. Alors, les liquidités de l'entreprise faiblissent, et si on n'est pas capable de se rattraper l'année suivante avec des revenus et dégager un profit, ben là, ça devient là un fossé qui est de plus en plus difficile à combler d'une année à l'autre.
OK, mais M. Bourgoin, là, je regarde ça, là. Je suis pas un génie de l'économie, là, mais le prix du diesel que vous venez de décrire, là, il est très réel. Combien de temps ça va durer, on ne le sait pas. Le prix des matières premières que vous devez commander, qui sont parfois difficiles d'accès, visiblement. Vous êtes en train de nous préparer à une pas pire d'augmentation pour cet été, là.
On peut pas le dire, M. Arcan, parce qu'on n'est pas dans le domaine maraîcher, dans une situation de gestion de l'offre. La manière dont ça fonctionne, c'est vraiment le libre marché de l'offre et de la demande. Alors, dans la vraie vie, comment ça fonctionne, c'est si la saison est mauvaise, il y a moins de produits disponibles, les prix augmentent. Par contre, si c'est une bonne saison et que les volumes sont au rendez-vous, ben l'acheteur, lui, a le beau jeu dans la négociation pour le prix de vente à la ferme pour faire baisser les prix. Et ça, c'est sans compter toute la compétition des produits qui arrivent de l'étranger.
En terminant, prenons un exemple. Là. Les fraises, ça arrive quoi au mois de juin, là, un petit peu avant, là, mais grosso modo, c'est le mois de juin. Est-ce que vous avez déjà en tête, c'est une bonne année, une moins bonne année? Est-ce que les prix vont être plus élevés? Il y a une rareté. C'est quoi le portrait de la fraise au Québec?
Ben écoutez, je suis pas beaucoup dans les fraises. Non. Moi, je suis surtout dans les légumes. Je vais vous donner un exemple là, très contemporain, un exemple d'aujourd'hui.
Okay.
Alors, on est en Montérégie. Actuellement, les variations de température des derniers jours donnent des maux de tête. La saison a commencé tardivement parce qu'il y a pas si longtemps, là, la semaine dernière, il faisait froid. Et là, tout d'un coup, on passe d'une température où il pleut beaucoup, où il fait froid, à une température où on fait des 30 degrés au mois de mai, où il pleut pas. Alors là, on est en pleine saison des semis, par exemple pour les légumes racines, comme les carottes. Alors là, ces jours-ci, ils sont critiques parce qu'on est en train de mettre les semis. Et s'il continue de faire chaud comme il fait là, mais les semis dans le sol risquent de tout simplement cuire et la carotte ne sortira pas du sol. Alors là, on est dans un plan de contingence. On va irriguer toute la fin de semaine pour espérer là, que la saison soit bonne et propice.
OK. Merci, M. Bourgoin. Bonne journée.
Mon plaisir.
Patrice Bourgoin, directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Parlons maintenant des négociations entre les ingénieurs de l'État et le gouvernement. La grève a été déclenchée le 22 avril. Il y a quand même des services essentiels. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, est avec nous. Maître Lebel, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Donc, il n'y a pas eu de reprise des négos malgré votre sortie hier, là, si j'ai bien compris.
Non, pas dans les derniers 24 heures. Là, la dernière rencontre qu'on a eue date de mardi passé, ce qui a, je dirais, suscité une réaction de ma part, c'est vraiment le fait que, après le troisième dépôt consécutif là, dans le dernier mois, où on a fait des avancées majeures au niveau des échelles salariales, bon, des plafonds, des primes d'experts, etc., ben on nous a répondu de façon très du revers de la main hier. Ben on ne continuera pas à discuter avec vous, continuez à lancer des offres jusqu'à temps qu'elles nous conviennent, puis après ça, on vous dira quand ça va. Donc moi, ce que j'ai dit, ben c'est pas comme ça qu'on négocie. Là. Ça se peut que dans ce qu'on offre, il y a des réaménagements à faire. Là. Je ne nie pas, on est en période de négociation. C'est possible qu'il y a des choses sur lesquelles on doit mettre un peu plus d'accent, d'autres non. Ça se peut, on propose des structures salariales qui sont nouvelles, hein, avec des classes d'ingénieurs, ce qui est une grande première au Québec, qui va nous permettre de pouvoir valoriser plus d'ingénieurs du groupe d'ingénieurs. Okay, mais oui, ça se peut qu'on ait à discuter, là. C'est normal.
Je fais entendre le président du syndicat, M. Martin, Marc-André Martin, à qui j'ai parlé hier, là. Il est pas tout à fait à la même place que vous.
Écoutez, là, ça fait plus de 10 rencontres, là, qu'ils prennent à peu près la même poignée de change puis la relancent différemment sur la table. On leur a dit, ça prend de l'argent pour régler. Puis pour l'instant, eux, ils voient les augmentations pour les ingénieurs du gouvernement comme étant une augmentation du nombre d'heures travaillées. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que si je travaille plus, je fais plus d'argent, mais c'est pas une augmentation de salaire.
OK. Est-ce qu'il y a raison de dire on les fait travailler plus comme si on les paye plus, mais c'est pas une augmentation de salaire?
Il a raison en partie. C'est-à-dire qu'effectivement, on offre de donner la base salariale sur 37h30 plutôt que 35. Ça s'est fait dans d'autres négociations. Moi-même, quand j'étais à l'Association des procureurs de la Couronne, c'est une des façons où on avait réussi à augmenter notre base salariale. Puis en plus, c'est cotisable au régime de retraite. Donc, il y a un impact certain sur la paie, mais c'est pas l'entièreté des offres gouvernementales. Donc, mais ça fait partie du paquet, comme dans tout réaménagement de structure salariale. Puis on peut se rendre, je l'entendais, je pense, sur une autre tribune dire à un moment donné que ça touchait là, le 122 000, que 20% des ingénieurs. C'est inexact. Avec les classes que l'on crée, jusqu'à 50% des ingénieurs pourront atteindre ce niveau salarial-là. Donc, depuis le début des négociations, M. Arcan, l'enjeu est très clair au table avec les ingénieurs et je le partage, on le partage, mon collègue OMTQ le partage, c'est de valoriser l'expertise, l'autonomie professionnelle. J'entendais le président à un moment donné agiter les pointailles de la commission Charbonneau. Là,
attendez, je vais vous aider là-dessus justement parce que écoutez bien ça.
Écoutez, on comprend pas que depuis, ça fait 10 ans que la commission Charbonneau, elle est terminée puis qu'il n'y a aucun gouvernement qui a usé de son leadership politique pour enfin régler le problème de l'expertise, là. On comprend vraiment pas. C'est une incompréhension totale.
Bon, vous, de la commission Charbonneau, vous connaissez ça, là. On se serait attendu une grande sensibilité sur la question.
Ben oui, c'est sûr qu'on va prendre cet argument-là puis me le ramener. Mais écoutez, depuis, il y a une extrême grande sensibilité à cette question-là. Il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Gendreau qui est sorti, qui avait 7 recommandations majeures. 6 de ces recommandations-là étaient sur l'expérience, accroître la présence des ingénieurs du MTQ dans toutes les phases de réalisation du projet, de pouvoir développer la transmission d'expertise, de faire en sorte que les ingénieurs aient des mandats pour lesquels ils peuvent mieux participer là, à la conception des mandats qu'on leur donnera, des budgets de formation, de valoriser l'autonomie professionnelle. Ça, c'est 6 des recommandations du rapport Gendreau. On y a répondu sur les 6 recommandations. La 7e est sur la rémunération et on est en train d'y répondre. Okay, ce que je dis aux ingénieurs, on est dans la bonne direction. Là. Ils ont une écoute de ma part. Mais pour avoir une écoute de ma part, encore faut-il qu'ils restent à la table et qu'on continue à discuter. Okay. Chaque fois qu'on discute, on progresse.
Bon, mais là, il y a une question fondamentale. Et ça vient de la commission Charbonneau. On s'est rendu compte qu'on manquait d'ingénieurs et qu'on devait aller en sous-traitance, puis que le fait que ce processus-là existait, ben on a vu les dérapes que ça a donné. Actuellement, là, il manque-tu des ingénieurs au ministère? Est-ce qu'on a comblé tous les postes? Est-ce qu'on a récupéré l'expertise?
Oui. Depuis la commission Charbonneau, là, avant même qu'on arrive, il y a eu une augmentation du niveau d'ingénieurs d'à peu près de l'ordre. Vous me pardonnerez le chiffre, là, c'est peut-être pas exact, mais disons autour de 17% d'augmentation des effectifs depuis la commission Charbonneau.
Est-ce qu'on a de la misère à recruter des ingénieurs parce que c'est plus payant au privé?
Non, on n'a pas de misère à recruter quand on parle d'ingénieurs d'expérience d'environ de jusqu'à 8 ans d'expérience. Là où ça devient plus difficile, c'est sur les ingénieurs avec une expertise particulière ou avec une expérience et une expertise plus élevée. À partir de 8 ans, là, on a c'est plus complexe de combler les postes et c'est pour ça que tout le réaménagement de la structure salariale que l'on propose est justement de mettre l'accent du plus gros des augmentations sur justement le bassin d'ingénieurs où il faut avoir une meilleure attraction et une meilleure rétention.
OK, moi j'ai l'impression
en bas de 8 ans là, on n'a aucun problème d'attraction au contraire.
OK, moi j'ai l'impression là quand je regarde ça de l'extérieur, je connais pas ça là, mais c'est plus payant au privé. Si je vais travailler pour SNC-Lavalin ou si je vais travailler pour n'importe quelle firme, on va faire plus d'argent que de travailler pour le gouvernement.
Ben pas dans le cas des ingénieurs, ça se compare quand même, je dirais, avantageusement avec le privé. Je vous dis pas, M. Arcan, que vous pourrez pas trouver un exemple d'un ingénieur au privé qui est mieux payé que les ingénieurs du gouvernement, là. Mais dans l'ensemble, on se compare avantageusement au privé. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas de problème d'attraction. Là où on a un enjeu, C'est oui, c'est sur certaines spécialités d'expertise, okay, etc. Donc, c'est pour ça que quand on regarde la structure salariale, encore une fois, le syndicat demande, passez-moi l'expression, de la moussoune pour tout le monde. Et nous, on dit non, il y a des enjeux d'expertise, d'attraction d'expertise. Il faut consolider l'expertise. Et c'est ça que la commission Charbonneau disait. Et c'est là-dessus qu'on va travailler en répondant au rapport Gendreau, tant sur les points de développement d'autonomie professionnelle, de développement d'expertise et sur l'attractivité par rapport à l'échelle salariale. Donc, on y est. Moi, ce que je dis, ne me répondez pas que vous ne me parlerez plus. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Venez vous asseoir. Je pense que j'ai démontré dans la dernière année et demie que je suis capable de m'entendre avec les groupes et de trouver des solutions. Alors, venez vous asseoir puis on va trouver une solution.
Monsieur Martin dit que son téléphone est toujours ouvert si vous voulez l'appeler.
Ben, c'est pas à lui de l'appeler. C'est lui qui a dit qu'il traîne la table. À un moment donné, je veux pas jouer sur les mots, monsieur Arcan, là. Mais on se comprend. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Ils nous ont répondu au dernier dépôt. Non, on ne vous parlera plus. Là, je lui dis, venez vous asseoir à la table de négo. C'est là qu'on va travailler. Okay. Puis on va trouver des solutions.
Merci. Bonne journée.
Hey, bonne journée
au revoir
à tout le monde.
La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.